Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique.
Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
On en parle avec beaucoup de fierté. L'étude du docteur Jean-Claude Tardif de l'Institut de cardiologie concernant la colchicine suscite de l'intérêt ici et dans plusieurs autres pays. Mais certains soulèvent des doutes, posent des questions et incitent à la prudence, comme le professeur Mathieu Molinard, chef du service de pharmacologie médicale du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux. En France, on parle avec lui aujourd'hui. Monsieur Molinard, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander de nous rappeler à quoi sert la colchicine normalement?
Alors, colchicine, c'est un médicament qu'on connaît depuis très longtemps et qu'on utilise normalement pour traiter les crises de gouttes et qu'on utilise à des doses pour des périodes assez limitées, quelques jours généralement. C'est pas un médicament anodin quand même, c'est un médicament qui a une marge thérapeutique étroite, donc on a des morts chaque année avec la colchicine.
Comme effet secondaire?
Comme effet indésirable, oui.
Et quels sont les effets indésirables? Qu'est-ce qui arrive? Parce que c'est quelque chose qui traite les inflammations, donc dans le cas de la goutte, par exemple, et les articulations. Et l'effet secondaire principal est lequel?
Alors, c'est pas un bonbon anodin. C'est pas un anti-inflammatoire classique, comme vous le connaissez. C'est un poison du fuseau, on dit en pharmacologie. C'est-à-dire que ça empêche la division des cellules, ça empêche la migration des cellules vers le site de l'inflammation. C'est un peu comme un anticancéreux, en fait, à faible dose, quoi. Donc, c'est un toxique qui a une marge thérapeutique étroite, qui a beaucoup d'interactions avec les médicaments, et donc ça peut être source de beaucoup d'accidents. Le plus fréquent, et ce que rencontre une grande partie des patients, c'est les diarrhées. Et ce qui peut être souvent un signe de début d'intoxication à la colchicine. C'est très, très fréquent. Certains ont pu proposer de mettre du Colchimax ou des médicaments qui bloquaient qui donnaient les constipations, mais ça peut masquer une intoxication, donc il faut mieux éviter ça. Et donc, c'est vraiment un médicament dangereux qu'il faut savoir manier avec prudence.
Et aujourd'hui, quand même, le docteur Tardif évoque que ce médicament-là, qui est quand même connu des médecins, aurait des effets spectaculaires. 25 % moins d'hospitalisation, 50 % moins de ventilation mécanique, 44 % moins de décès. Et il évoquait hier que l'étude scientifique intégrale sera publiée là, dans les heures qui viennent.
Eh bien, on attend avec impatience d'avoir la publication. Vous savez, on adorerait, moi le premier, avoir un médicament pas cher pour prévenir les hospitalisations et les morts de la Covid. Alors c'est vrai que j'en ai un, moi, et vous l'avez aussi. Le problème, c'est qu'il n'est pas assez disponible, c'est la vaccination. Ça, c'est plus efficace que tout. C'est le seul médicament qui peut changer le cours de l'épidémie, c'est sécuritaire. Alors, est-ce qu'on prend la colchicine en attendant? Alors, là, on a eu que des choses qu'on ne fait pas, à savoir que la bonne méthode, c'est de... Tu vas publier sur YouTube, on a vu ce que ça a donné en France avec l'hydroxychloroquine, le buzz que ça a donné pour s'apercevoir qu'à la fin, on avait un médicament qui était plus toxique et qui a fait plus de morts qu'il n'en a sauvé. Et là, on publie un communiqué de presse qui ne donne pas les informations. Donc, si vous voulez, on va attendre d'avoir la publication revue par les pairs. Sur la base de ce que j'ai et l'analyse pharmacologique qu'on partage avec la Société française de pharmacologie et de thérapeutique, où on a un site internet où on a traité la question, si ça intéresse vos auditeurs, ils peuvent aller regarder facilement, on fait une foire aux questions sur les médicaments et le Covid, il était prévu dans cette étude de mettre 6000 patients déjà. Or là, ils en ont mis que 448, si je lis le communiqué de presse. Ça m'embête déjà, parce que c'est un peu comme si vous jugiez le match de hockey à la fin de la deuxième période et dire il a gagné. Non, on va attendre la fin de la troisième.
Monsieur Molinard, selon les chiffres que moi j'ai, on évoquait une étude échelonnée sur 4488 patients et dont 300 n'étaient pas des confirmés par écouvillon en termes de COVID, mais qu'il en restait quand même 4159.
Oui, mais il était prévu, vous savez, en recherche, on annonce avant ce qu'on fait, et ensuite on fait ce qu'on a annoncé. Et on change pas les règles du jeu en cours de partie. Ils avaient annoncé faire 6000 patients, ils se sont mis arrêtés à 4448 de mémoire. Ils n'ont pas inclus tout ce qui était prévu. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça, on va falloir analyser pourquoi. Par ailleurs, quand on regarde, on annonce ce qu'on appelle un critère principal, c'est-à-dire le critère sur lequel on va juger l'étude. Si ce critère est significatif, on continue les autres analyses. S'il est négatif, on s'arrête là et les autres, c'est exploratoire, on peut toujours regarder, mais ça ne prouve rien. Sur le critère principal, ils réduisent de 21% les hospitalisations et décès, approchant la différence significative sur les patients inclus. Ça veut dire approcher ne veut rien dire en recherche. Approcher, ça veut dire qu'on n'a pas si on, soit on n'a pas. Vous ne pouvez pas dire j'ai approché de la victoire. Soit j'ai gagné, soit j'ai perdu. Si vous avez approché de la victoire, c'est que vous avez perdu. Donc l'étude est négative au sens méthodologique. C'est dommage, hein, pour l'instant, j'aurais aimé. Et puis 21%, moi j'aime pas cette expression-là, on n'a pas les données, j'insiste, parce que 21%, ça dépend du chiffre, en valeur absolue. En fait, 21% de zéro, c'est zéro. Donc combien de cas a-t-on évité? Alors on peut le calculer à partir des choses que l'on connaît de la fréquence dans la population générale, on peut s'attendre à avoir évité à peu près 30 hospitalisations. Mais j'attends des chiffres vrais, hein, parce que peut-être qu'ils ont eu un échantillon qui est plus important ou moins important. Mm-hmm. Donc, si cette différence n'est pas statistiquement significative, donc ça veut dire que c'est 30, ça peut être le hasard qui les donne, mais ces 30 patients qui ont évité l'hospitalisation, ça a été au prix de traiter 2000 patients. Donc vous exposez beaucoup de patients pour seulement quelques patients qui vont avoir le bénéfice. Donc c'est ça qu'il faut qu'on mesure précisément, et c'est ça l'objet de la recherche, c'est de mesurer le bénéfice et le risque qui est en face. Alors derrière, ils ont fait des réanalyses, et ça, méthodologiquement, on n'a pas trop le droit de faire, donc ça, la critique va s'en charger. Hein.
Et donc, vous attendez beaucoup,
si
vous de...
Si sont Covid+, etc., à ce moment-là, bah oui, si on regarde seulement ceux qui ont marqué des pénalties, bah effectivement... on a gagné, oui, c'est pas comme ça qu'on dit. On veut pas saucissonner les données de manière importante. Et si on calcule avec les données qu'on a, on a peut-être évité 8 morts. Si on a évité 8 morts, c'est bien, mais on a exposé 2000 patients à un médicament toxique.
Mais monsieur le professeur Molimard, vous évoquez ici donc qu'il faut évidemment investiguer davantage. À quel point on attend beaucoup d'une publication dans une revue médicale reconnue? Quelle est la nature de l'aval de ces travaux lorsqu'on est publié?
Parce que quand vous faites une publication scientifique, il va y avoir, ce que je viens de vous faire un petit peu très rapidement et sommairement, une analyse et une critique par les pairs, c'est-à-dire les autres scientifiques, qui vont dire « Ah mais attends, explique-moi pourquoi tu avais prévu 6000 et t'en as 4400. Est-ce que c'est fair-play? Est-ce que c'est pas fair-play? Est-ce que tu as des résultats qui sont vrais et qu'on peut penser réels? Ou est-ce qu'en fait c'est par chance que tu as eu ces résultats ?» Donc c'est toute la difficulté de la recherche, qui est de confirmer et de pouvoir s'assurer sur quelque chose de solide, parce que on a un médicament qui est possiblement toxique, et donc il faut être vraiment sûr que le bénéfice est réel et que c'est pas le hasard qui a fait qu'on a eu plus de patients qui ont semblé montrer le bénéfice. Au jour d'aujourd'hui, sur les données d'un communiqué de presse, je peux rien dire, et le seul moyen d'analyser ça, c'est d'avoir une publication complète avec l'exposition de toutes les données que l'on va pouvoir critiquer en étant pas avec un lien d'intérêt, parce que quand on défend une étude, on veut croire que ce qu'on dit est vrai. On s'est investi, ils ont travaillé énormément et ils ont fait un gros travail, mais ça fait partie de la règle du jeu de se prêter à la critique par les autres.
Bien sûr. Dites-moi, docteur Molimard, dans vos publications Twitter, on a pu remarquer aussi vous n'êtes pas du même avis du tout que le docteur Jean-Claude Tardif quant à l'association qu'il peut y avoir entre la colchicine et la azithromycine.
Ah ben ça, c'est formel dans le sens où il y a un problème d'interaction médicamenteuse qui fait que l'azithromycine, qui est un antibiotique qui n'a absolument pas montré son intérêt dans le traitement de la COVID, j'insiste, l'azithromycine rentre en interaction pharmacologique avec la colchicine, augmente les taux plasmatiques de colchicine, d'autant plus qu'on est âgé, or c'est chez les personnes âgées qu'on aurait le plus bénéfice de pouvoir avoir ces traitements, et donc on va augmenter le risque de mort. En France, c'est une contre-indication. On n'a pas le droit d'associer l'azithromycine et la colchicine. C'est interdit. C'est une contre-indication médicale absolue.
Ce qui vous anime, docteur Molimard, actuellement, c'est de s'assurer qu'on ne perde pas de vue que l'essentiel, c'est la vaccination et les mesures de distanciation sociale?
Absolument. On peut toujours espérer avoir des médicaments qui améliorent les choses. On a eu des médicaments qui ont bien amélioré les choses. Je parle pas de l'oxygène. Heureusement qu'on a l'oxygène. Les corticoïdes, la dexamétasone, a montré son intérêt. C'est d'ailleurs une critique supplémentaire, puisque si on devait faire l'analyse de cet article, une critique supplémentaire, c'est que les morts qui auraient été évitées pour autant qu'ils soient réels, étaient dans une période où on n'avait pas de traitement qui avait démontré son effet sur la mortalité, c'est-à-dire la dexamétasone, dont on a eu vraiment la preuve au mois d'août. Donc, si vous voulez, on a peut-être que la taille d'effet qui est observée là dans cette étude est encore plus faible que ce que est décrit dans ce communiqué de presse. J'attends d'avoir la publication. Donc, pour l'instant, je resterai très prudent. Je dirais, attendons la publication. Ne nous précipitons pas sur la colchicine parce que c'est un médicament dangereux. Ça serait du sirop d'érable, ça serait de la vitamine C. Je dirais, allez-y, on risque rien. Là, il y a vraiment des pertes de chance éventuelles. On ne sait pas encore, donc on va rester prudent. Favorisez la vaccination et faites-vous vacciner sitôt que vous pouvez, dès que c'est possible. C'est le seul traitement pour lequel on a maintenant une preuve de la sécurité et surtout de l'efficacité qui est incroyable. Et surtout, gardez les mesures, les gestes barrières en attendant. On fait le gros dos, on passe la vague.
En terminant, Dr Malimard, vous avez sur votre site, votre compte Twitter, mentionné que vous aviez été vacciné le 6 janvier. Vous allez donc recevoir votre deuxième dose cette semaine?
Absolument demain. Demain, avec impatience. Et comme ça, je serai protégé. J'ai eu aucun effet indésirable de la vaccination. Et puis, il se trouve qu'à Bordeaux, dans mon service de pharmacologie, on surveille l'ensemble du vaccin Pfizer pour l'ensemble de la France et on n'a pas de signal qui nous inquiète plus que ça quant à ce valet aux effets indésirables de ce vaccin. Donc, allez-y, faites-vous vacciner. C'est le seul traitement qui est efficace, qui va nous sortir le nez du tunnel. Quoi.
Mais encore faut-il être dans les groupes qui sont priorisés pour recevoir le vaccin. C'était votre cas?
Alors, moi, je suis médecin, j'ai plus de 50 ans, donc c'est dans les groupes priorisés en France. On a commencé par les établissements pour personnes âgées dépendantes, ensuite les médecins, les personnels soignants de plus de 50 ans, associés ensuite aux personnes de plus de 75 ans, et on va décliner plus par la suite pour les gens avec des polymorbidités. Donc, effectivement, j'étais dans la lot des patients, des médecins qui devaient être traités.
Dr Malimard, permettez-moi une dernière question. Quel est votre avis sur l'espacement un peu élastique que certains pays appliquent relativement à la deuxième dose? Est-ce que ce n'est pas, entre autres, irriter le monopole qu'ont les pharmaceutiques? Est-ce que ce n'est pas potentiellement là, chercher un peu le trouble de ne pas se faire livrer les vaccins en bonne date promise puisqu'on n'applique pas la posologie telle que recommandée par le fabricant?
Alors, moi, je dirais il faut garder, d'ailleurs, il y a une communication de notre ministre de la Santé, heureusement, qui a fait marche arrière toute, parce qu'il était parti pour augmenter l'espacement. Il ne faut pas espacer. En tout cas, on n'a pas d'éléments de preuve de maintien de l'efficacité du vaccin si on espace à 42 jours, comme ça avait été évoqué. Dans 98% des patients des études Pfizer étaient traités à 21 jours. Dans l'étude de Moderna, les patients au-delà de 29 jours étaient exclus de l'analyse, donc on n'a pas les données après l'espacement. Alors par contre, effectivement, il peut y avoir des problèmes de fourniture qui peuvent faire décider d'espacer, mais je n'ai pas les données scientifiques. Quant au maintien d'efficacité, on peut craindre que l'efficacité soit moindre, ce qui pourrait être dramatique, notamment avec l'émergence de nouveaux variants pour lesquels on a besoin d'avoir des anticorps très très élevés pour maintenir l'efficacité, et que si on commence à faire baisser les anticorps, ça peut poser des problèmes. Donc, il ne faut pas espacer ou alors faire des essais cliniques pour montrer qu'on peut espacer sans risque.
Mais sur une base purement commerciale, une compagnie pharmaceutique pourrait ne pas apprécier qu'on joue avec les potentiels rendements du produit qu'ils cherchent à vendre partout sur la planète.
Bah, de toute manière, ils vendront les deux, hein. Ils vendront les deux doses. Donc, il n'y a pas trop, du point de vue commercial, ça va rien changer pour eux. Ça va faire un petit décalage. Mais le problème, c'est qu'on va traiter plus de monde le premier mois, parce qu'on va faire que des premières doses et pas des deuxièmes doses. On va décaler le problème d'un mois. On va traiter un peu plus de patients, mais qui seront peut-être moins bien couverts. Donc, respectons les règles d'utilisation du produit tel que ça a été approuvé, à défaut d'avoir démontré autre chose de plus efficace. Et puis en attendant, il vaut mieux être retardé d'un mois pour être vacciné, parce qu'on peut pas tous être vaccinés en même temps. Garder le masque. Si on garde son masque bien sur le nez, qu'on évite de manger sans masque avec des gens partout, notamment je pense les selfs ou les restaurants d'entreprise, c'est là qu'on se contamine. C'est quand on va déjeuner ou manger sans masque avec d'autres personnes. Quand on a le masque, on risque rien. On se lave les mains. On a le masque, on risque rien.
Monsieur le professeur, Mathieu Molimard, merci beaucoup pour toutes ces informations. Monsieur Mathieu Molimard est chef du service de pharmacologie médicale du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux en France. Bonne journée.